Les puces à l'oreille, voilà le nouveau rendez-vous de Tech Café, un nouveau nom, bon, qui est simplement une nouvelle proposition pour appeler la chronique des composants. On vous parle de ce qui fait fonctionner les appareils, et effectivement, j'aime bien cette proposition, et on retient un petit peu le titre, les puces à l'oreille, réagissez au titre. En tout cas, une chose ne change pas, c'est l'auteur de cette émission, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Ça va très bien, bonjour à tous.
On refait une revue de tout ce qui permet de faire fonctionner nos appareils comme on a l'habitude de le faire de temps en temps. Je sais que vous aimez ce rendez-vous. On a un programme plutôt cool à vous dérouler. Réagissez à l'émission sur techcafé.fr dans les commentaires de l'article de l'émission. Et puis, si jamais vous aimez les épisodes de Tech Café, si jamais vous aimez la préparation et le travail qu'on fait pour le podcast, rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour nous soutenir à partir d'un euro par émission. Et vous accédez aussi à des avantages qu'on est un petit peu en train de refondre. C'est peut-être le bon moment, si jamais vous n'étiez pas allé regarder la page Patreon de Tech Café, d'y aller là et puis d'aller voir un petit peu ce qui a pu évoluer ou ce qui va bientôt évoluer. Merci par avance de votre participation. Sans autre forme de procès, les news. On a le Super Computing 2019 qui s'est déroulé, Guillaume, où on va dérouler les machines marquantes qui ont pu être présentées.
Oui, les grosses machines. C'était Super Computing 2019 à Denver, donc une conférence pour les pros du High Performance Computing, donc les grosses machines de calcul. Hein. Et donc, on a revu des têtes connues, à commencer par le Cerebras. Donc Cerebras, on en avait parlé, hein, c'est cette fameuse puce géante, la plus grosse puce du monde, hein, elle est plus grosse que ton croque-monsieur, 57 fois plus grosse que le plus gros des GPU, 400 000 cœurs, 18 gigaoctets de SRAM, on die directement. Donc on en avait parlé il y a deux épisodes, je crois, donc c'était une puce quasi expérimentale, un truc absolument énorme et historique. Et cette puce intègre désormais le CS1, qui est un super ordinateur dédié à l'IA, et donc on peut le programmer via TensorFlow ou PyTorch dans un premier temps, hein. Mais il sera possible à terme aussi de le programmer avec une sorte d'interface C++, en fait, hein, même si c'est une puce qui est assez spéciale, qui donc devra être programmée d'une manière un petit peu particulière. Mais bon, le CS1, c'est quoi ? C'est assez petit, en fait, hein, puisque c'est à la taille d'une grosse armoire, comme on en trouve des centaines dans un data center. Hein. Mais là, c'est une seule armoire, donc il consomme 20 kW, et il absorbe 1,2 terabits par seconde via 12 lignes 100 gigabits par seconde, donc des gros trucs Ethernet. Et il y a quand même 4 kW qui sont dévolus au système de refroidissement par water cooling, et le reste donc est dévolu au calcul. Donc c'est en fait, c'est pas énorme, hein, puisque 20 kW, c'est pas tant que ça. C'est une machine qui est totalement custom. La puce, le montage, le refroidissement, tout est propriétaire et adapté à la puce vraiment hors norme, hein, qu'il y a dedans. Et donc finalement, c'est petit. C'est petit mais costaud, car lui tout seul, il peut tenir la dragée haute à un cluster entier, d'après le CEO de Cerebras. Leur ancien modèle était basé sur des TPU de Google, donc étaient déjà des puces ultra optimisées, ultra sophistiquées, vraiment dédiées à l'IA. Et elles tenaient dans 10 armoires et consommaient 100 kW, tout en ne donnant que un tiers des performances du CS1. Donc c'est le laboratoire d'Argonne, premier heureux propriétaire de ce monstre, hein, qui pourra donc en interconnecter jusqu'à 32 s'il veut, pour avoir la puissance d'un data center entier dans une grosse salle, on va dire, dans un gros hangar. Donc il y a le laboratoire de Lawrence Livermore qui sera le prochain à acheter des CS1, et globalement ça peut décupler les performances potentielles des superordinateurs actuels. Donc voilà, c'est un produit.
Ça y est, c'est prêt, on va l'avoir entre les mains, c'est cool. Intel dévoile un petit peu des évolutions, Guillaume.
Oui, c'est un autre nom connu, c'est Aurora, hein, donc toujours pour Argonne, d'ailleurs toujours pour Argonne Lab. Aurora, donc c'est le projet d'avoir un ordinateur exascale dès 2021. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire, hein, donc actuellement.
C'est quoi exascale ?
On est dans l'ère du péta, c'est ça. Donc ça veut dire que en gros les superordinateurs ils balancent du pétaflop. Donc c'est qu'est-ce que ça veut dire, en gros vos CPU là, ou le mien, hein, dans vos PC ou de Mac, ils balancent des gigaflops, des milliards d'opérations en virgule flottante par seconde. Alors c'est bien, mais c'est rien face aux GPU, les gros GPU qui envoient, donc c'est optimisé pour les calculs parallèles, et ça envoie des teraflops, donc c'est-à-dire des milliers de milliards d'opérations par seconde. Et bon, globalement en alignant ces GPU par milliers, les superordinateurs ils balancent globalement des milliers de fois plus de puissance, ce sont des pétaflops. Donc on est au million de gigaflops. Et puis le pas suivant naturel, on va dire, c'est 1000 fois plus, c'est l'exaflop. Alors ça donne le vertige. En fait, il n'est pas vraiment utile d'essayer de se figurer combien d'opérations ça fait, honnêtement. Tu vois, on essaye toujours de se dire, ah, c'est 10 puissance machin, ou alors c'est des millions de milliards. Bon. on s'en fout, en fait. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, ben voilà, il y a une croissance exponentielle de la puissance des ordinateurs, hein, donc c'est vrai pour votre PC, il faut se souvenir des PC que vous aviez il y a 30 ans, et des PC que vous avez maintenant, bon, ben là, la croissance exponentielle des supports ordinateurs, c'est exactement pareil, hein, il y a une croissance exponentielle. Et bon, il y a 30 ans, justement, quand mon propre Ultrabook, là, que j'ai en face de moi, aurait pu être considéré comme un support ordinateur, ben on n'espérait même pas simuler dessus des interactions d'une molécule de médicament sur des protéines d'une cellule cancéreuse. Et ça au niveau atomique, tu vois, c'était pas une option. On faisait des tests in vitro, on faisait des tests in vivo, on se démerdait comme on pouvait, mais les simuler dans un ordinateur, c'était juste pas envisageable. Sur mon PC, simuler une tranche de cortex cérébral à l'axone près, c'est pas non plus une option. Tu vois, simuler les collisions de galaxies et tester des modèles sur l'énergie noire, ben c'est pas des trucs que tu fais et que tu peux faire non plus. Aujourd'hui, avec les péta, flop, et bien demain avec les hexaflops, ça deviendra possible. Donc demain, on sera à l'hexaflop, et en fait, c'est très bien, tu vois, c'est juste, voilà, on a plus de puissance, donc on peut faire des trucs plus compliqués, des simulations plus précises, et puis c'est tout. Après, que ça fasse des millions, de millions de flops, on s'en fout, en fait, il faut perdre ça de vue, c'est plus vraiment pertinent d'essayer de voir les puissances de 10, je pense. Toujours est-il que, bon, aujourd'hui, il faut le construire, hein, cette Aurora, et c'est Intel et Cray qui s'y collent, et c'est un gros contrat, en fait, c'est un contrat qui va chercher dans les 500 millions de dollars au bas mot, donc c'est un demi-milliard de dollars, hein, c'est monstrueux. Énorme. Et bien c'est pas facile, parce qu'Intel a déjà revu sa copie, hein, puisque Aurora devait, à l'époque, il devait contenir des Xeon Phi, sauf que les Xeon Phi sont passés à la trappe, et donc désormais, nos Aurora, ce sera deux Xeon Sapphire Rapids, et 6 GPU Ponte Vecchio, donc c'est Ponte Vecchio, c'est un truc nouveau, hein, c'est une variante des futurs GPU XE d'Intel, qui sera dédié au HPC. Donc on sait que donc Intel veut investir le marché des cartes graphiques donc pour faire une concurrence frontale à Radeon et à GeForce, et on sait aussi que par exemple GeForce a des variantes de GeForce qui sont les Tesla, qui sont dédiées au calcul. Donc apparemment Ponte Vecchio c'est l'équivalent chez Intel des futurs GPU, mais vraiment pour le calcul. Donc on sait que les Ponte Vecchio seront 7 nanomètres, alors que les Sapphire Rapids seront 10 nanomètres. Donc globalement, les Xeon seront là en chef d'orchestre, et les deux Xeon vont donc être les chefs d'orchestre de 6 grosses puces qui vont faire les calculs. Mais globalement, ils seront assez proches, hein, de ces trucs-là, puisqu'ils seront équipés de CXL, donc c'est un truc nouveau, c'est Compute Express Link, qui permet aux CPU ou aux GPU de se parler directement, d'utiliser le même espace mémoire. Il y aura aussi une nouvelle version d'Optan, d'ailleurs, dans Aurora. Et donc Aurora devrait être constituée d'à peu près 200 racks, c'est-à-dire 200 armoires, quoi, hein, énormes, avec des lames dedans, avec au total 10 pétaoctets de mémoire et 230 pétaoctets de disque. Donc tout devrait pouvoir être programmé avec OneAPI, donc encore un truc qui a été annoncé au Supercomputing 2019. Et c'est une interface de programmation qui introduit le Data Parallel C++. Donc en gros, vous programmez un truc en Data Parallel C++, qui est donc proche du C++. Et après, il y a un compilateur qui s'occupe de compiler et d'optimiser votre code, hein, pour une variété de cibles. Donc ça peut être un CPU, ça peut être un GPU, ça peut être un TPU comme chez Google, ça peut être un FPGA un petit peu particulier, ou ça peut être évidemment, on suppose, des Ponte Vecchio ou de ce genre de truc. Donc tout ça, c'est quand même un énorme défi pour Intel, hein, puisque bon, de rapides calculs faits par Nantech montrent que pour atteindre l'hexaflop, il faut tabler sur entre 66 et 135 teraflops par GPU. C'est énorme, hein. Alors c'est des GPU de dans 2 ans de très haute volée. Mais bon, actuellement, on est plus autour de 10-15, tu vois, donc c'est quand même un saut quantique assez important. Mais bon, c'est un enjeu majeur, donc, pour Intel de livrer en temps et en heure du matériel de ce niveau, hein, des technologies qui vont rester pour les pros jusqu'en 2022 et qui, progressivement, vont aussi devenir disponibles pour un petit peu tout le monde. Mais c'est Aurora qui a apparemment la primauté d'un certain nombre de trucs.
Bon, du gros calcul qu'on s'imaginait pas effectivement faire, c'est toujours rigolo de le remettre en perspective. Et quand tu compares avec ton Ultrabook, effectivement, on voit tout le chemin qui est parcouru. Un autre élément qui a été présenté, alors qui est plus visuel, hein, celui-ci déjà au Super Computing 2019, c'est du refroidissement liquide. Mais alors, c'est assez visuel. Visuel pour le coup, hein. T'as un bel aquarium, mais c'est un water cooling qui est un petit peu particulier, Guillaume.
Ouais, c'est pas du water cooling, hein, attention. Une autre tendance, c'est vrai, bien que ça ait déjà été fait par le passé, c'est le refroidissement liquide. Alors tu te doutes bien, vu les monstres dont on a parlé, hein, que ça doit chauffer un petit peu, tout ça, quand même, et qu'évidemment c'est un enjeu, le refroidissement. Ouais. Pourtant, le plus souvent, bah, c'est encore du refroidissement assez classique, à base d'air, qui est d'air froid qui passe, quoi. Donc il y a des clims, et puis il y a de l'air froid qui passe, et puis bon, voilà. Alors, Otto a une autre idée. Il veut effectivement, hein, transformer ton serveur en aquarium. Alors le principe, c'est assez simple, hein. Tu immerges ta carte mère dans un liquide qui donc diffuse la chaleur automatiquement partout où c'est chaud, donc voilà, ça chauffe, tu vois, il n'y a pas besoin de radiateur, en fait, l'intégralité du liquide est un radiateur. Et bon, alors évidemment, c'est pas de l'eau, hein, ce liquide, c'est pas de l'huile non plus, c'est un composé organique spécial qui conduit pas l'électricité et qui a un point d'ébullition très bas. Typiquement, il bout vers les 60 degrés. Comme ça, les composants qui sont chauds, ils vont faire bouillir le liquide, puisque 60 degrés, c'est très vite à atteindre hein, par des processeurs en charge. Donc, ils vont faire bouillir ce liquide. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une convection. Le gaz donc chaud va remonter. Naturellement, il va échanger la chaleur à la surface. Et il va se recondenser. Et donc, il va retomber dans le bain de liquide. Et c'est un circuit fermé comme ça. C'est ce qu'on appelle le refroidissement liquide biphase. Et c'est super efficace. Alors, bien sûr, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre qu'un ventilateur. Tu te doutes bien. Donc ça peut valoir le coup, hein, puisqu'on peut pousser la densité plus loin avec ce procédé, on peut avoir jusqu'à 60 kW dans moins de 2 mètres carrés. Donc effectivement, les fameux aquariums que tu vois là, en fait ces aquariums, ils font moins de 2 mètres carrés en truc, ils font à peu près 1 mètre sur 1 en surface au sol, donc ils montent quoi, ça vers le plafond, et dedans il y a des racks de GPU, qui consomment jusqu'à 60 kW et qui sont refroidis comme ça. Ce serait pas possible de faire ça aussi dense, en fait, avec de l'air. Parce qu'il faut faire passer l'air, etc. Donc, ce serait pas possible. Donc, c'est compact, c'est efficace, hein, puisqu'avec, pour 1,028 MW consommé pour 1 MW utile. C'est-à-dire que, en gros, quand tu envoies, donc 1,28 MW, il y a 1 MW qui part pour le calcul et le reste seulement pour alimenter le système de refroidissement. C'est très bien parce que le meilleur système au monde plafonne vers les 1,05. Donc c'est quand même deux fois mieux à peu près. Évidemment, le problème, c'est la maintenance. Hein, parce que voilà, c'est pour ça qu'il y a certaines opérations qui sont carrément automatisées avec le auto. Mais bon, quand c'est pas automatisé, bah évidemment, c'est un souci parce qu'il faut sortir les trucs du liquide, il faut manipuler le liquide. Bon voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Puis évidemment, le dernier problème, c'est le prix, qui n'est pas spécifié d'ailleurs.
Et qui doit être donc très cher, comme dans tous les prix qui ne sont pas spécifiés. Nvidia, qu'est-ce qu'il propose à la sauce supercomputer, Guillaume ?
Ben, rapidement, ARM aussi, hein, t'es présent au supercomputing, hein, même si les superordinateurs ARM sont encore largement minoritaires. Nvidia, en tout cas, a annoncé qu'il ouvrait grand les portes du monde de GeForce, hein, puisqu'il a présenté un design de référence pour un superordinateur où les gros calculs seraient faits par des Tesla, qui seraient gérés par un CPU ARM. Donc il a des partenariats avec plein de gens comme Cray, HPE, Marvel, Fujitsu et Ampère. Bon, Marvel, Ampère, c'est des... Enfin, justement, ils font des serveurs ARM, donc c'est assez logique. Cray, c'est beaucoup moins évident, puisque Cray est beaucoup plus avec Intel, mais bon. Donc c'est une tendance qui se concrétise aussi par l'évolution des instances que vous pouvez utiliser d'ailleurs d'ores et déjà, je pense, chez Amazon, chez AWS, puisqu'il y a des instances ARM chez Amazon depuis quelques temps, hein. Et d'ailleurs, ils ont évolué leur truc, puisque maintenant, ils peuvent proposer des serveurs qui sont basés sur Neoverse, des puces ARM gravées en 7 nanomètres, qui sont 60% plus performantes que les plus anciennes puces qui s'appelaient Cosmos. Donc c'est des puces, c'est pas parce que c'est ARM et que ça équipe les téléphones mobiles d'habitude que c'est pas puissant. Hein. Là, c'est quand même des puces 32 cœurs à 3 GHz, qui consomment quand même 100 watts, donc c'est des vraies puces serveurs, hein, pour le coup. Hein. Et c'est que le début. Chaque année, Amazon prévoit d'évoluer vers de nouveaux designs, et donc on attend Zeus et Poséidon, et rien que ça, pour 2020 et 2021. Et c'est une croissance qui est calquée sur les process de TSMC, parce que c'est TSMC qui fabrique les puces, et TSMC, ils prévoient de transitioner sur le 5 nanomètres, tu vois, enfin, il y a du 7 nanomètres, 7 nanomètres plus, après du 5 nano, etc. Donc c'est probablement là-dessus qu'ils vont se calquer, quoi.
Très bien, on va aller du coup vers le normal computing 2019, donc un peu moins puissant, quoique, la guerre des cœurs, un vainqueur.
On a un vainqueur, ouais, plus de vainqueurs, même on reparle d'AMD encore une fois, hein, puisque figure-toi, quoi, on est de retour dans une période excitante, hein, où AMD défonce Intel, qui réplique, qui se fait défoncer, qui re-réplique, etc. Donc c'est une grosse compétition.
Et qui se refait défoncer, surtout.
Pour le coup, là, ouais, là, pour le coup, la dernière fois, ouais. N'oublions pas que pendant très longtemps, hein, deux cœurs, en portable, deux cœurs, c'était la norme, et quatre cœurs, en gros, en fixe, ça allait, quoi. Et même en super haut de gamme, on avait huit cœurs max, et puis après, il y a eu les Ryzen qui sont arrivés. Et en gros, ça a doublé en l'espace d'une année, quoi. Huit cœurs pour deux fois moins cher en haut de gamme. Le quadricœur devient la norme en laptop. Six cœurs, ça devient relativement courant en fixe. Et en haut de gamme, les changements sont encore plus dramatiques, hein, puisque Intel a répliqué avec 18 cœurs, puis 28 cœurs en Xeon, alors pour un prix exorbitant. Hein, et AMD, il est revenu avec des puces 32 cœurs, qui sont deux fois moins chères que les 28 cœurs du Xeon. Donc on avait coutume de dire qu'AMD avait plus de cœurs, mais des performances monothread qui étaient moins bonnes. Mais ça, c'est fini, puisque les Threadripper 3960X pardon, et 3970X, qui ont 24 et 32 cœurs respectivement, ben ils dépassent le i9-10980, c'est-à-dire le super top haut de gamme. Donc ça y est, non seulement AMD est revenu sur le haut de gamme, non seulement il est vainqueur sur le haut de gamme, mais en plus, Il n'a pas fini parce que il y a un 3990X qui arrive dans moins de 2 mois et qui aura 64 cœurs, qui sera donc le leader incontesté du marché haut de gamme. Donc c'est, ça veut dire qu'en gros, pour une fois, c'est AMD qui va pouvoir dicter les prix. Parce qu'évidemment, ça sera quand même cher, hein, vous ne faites pas d'illusions. 64 cœurs, ça va être super cher. Mais c'est pour les stations de travail et les pros. Et ça sera probablement quand même moins cher que ce qu'aurait proposé Intel, je suppose. Et bon, on verra ce que ça donne, parce que évidemment, je suppose qu'Intel va pas rester les bras croisés, donc ça va continuer, ce qui est tout bénef, en fait, pour les consommateurs et les pros du rendu 3D, ou du calcul scientifique, ou du montage vidéo.
Des petites annonces du côté de chez Imagination, et pas des moindres, peut-être des annonces qui vont faire date à l'avenir, d'après eux, ils nous
on
disent.
On espère. Ouais, Imagination revient, il a été sévèrement impacté par la désaffection d'Apple, hein. Il a dû revendre l'architecture MIPS, d'ailleurs, qu'il avait acheté parce qu'il voulait se lancer sur le marché du système surplus, mais bon. Donc, globalement, c'était une plutôt mauvaise passe. Bon, il a été sauvé par des investisseurs chinois, et il vient de présenter une nouvelle architecture de Power VR, qui s'appelle la série A. Et donc, elle est promise quand même 4 fois plus rapide que la dernière gen. Donc, en rogue, hein, je suppose, elle offrirait 2 teraflops en très haut de gamme, donc ça serait suffisant pour les PC portables, et 1 teraflop
dans pas longtemps, hein.
Ah oui,
c'est
oui,
prévu pour dans
oui,
pas longtemps.
Prévu. C'est un peu pendant pas longtemps, ouais, pour l'année prochaine, normalement, les premiers trucs. Ce serait 1 teraflop pour du gaming téléphone sur téléphone, donc ça veut dire que globalement, c'est largement assez pour tenir tête à toutes les autres, à tous les autres concurrents. Donc ce serait capable aussi, enfin, ce serait compatible aussi OpenCL, Vulkan. Il y aura aussi la possibilité de faire du. Comme d'habitude, enfin, tout le monde le propose maintenant, ouais, de l'IA accélérée. Donc des puces un petit peu neurales, quoi. Donc, c'est une architecture qui a été très fortement remaniée, d'ailleurs, pour être plus optimisée, beaucoup plus dense. Donc, elle marquerait, hein, le retour d'Imagination dans les appareils, dans le haut de gamme. Power VR, ça a été synonyme d'excellence pendant des années et des années. Hein. Donc, ce serait assez cool, hein, qu'ils puissent refaire de l'ombre à Adreno et à Mali. Donc, on l'espère, on verra bien les premiers benchmarks l'année prochaine, probablement.
On reste dans les ordinateurs moins supercomputeurs, mais quand même computeurs quand même, mais plus sous l'angle du logiciel, en particulier de l'OS, et même de la défense de Linux. Et là, Linux, le système s'est mis de côté des alliés assez inattendus, pardon, mais plutôt de poids. Et c'est plutôt original, je trouve, comme démarche. C'est qui ces gens-là qui vont soutenir Linux, Guillaume ?
Bah, tiens, on se souvient, nous, vieux de la vieille, que Microsoft n'aimait pas du tout Linux.
Pas du tout. Ils ont changé un peu d'avis ces derniers temps.
À une époque, ils le considéraient comme une sorte de cancer du monde logiciel. Oui, c'était vraiment. Et bien là, figure-toi que IBM, Microsoft, donc, sont fait un partenariat pour. Ils ont fait un partenariat avec l'Open Invention Network et la Linux Foundation pour faire une espèce de bouclier contre les patent trolls. Parce que on sait évidemment que Linux, c'est un truc gratuit, hein, bien entendu, mais il n'est pas à l'abri de se faire attaquer pour des violations de brevets plus ou moins, et la plupart du temps moins justifiées sur tel ou tel machin d'interface qui aurait été breveté par un obscur cabinet. Et donc, pour éviter ça, eh bien, il y a des millions de dollars qui ont été injectés dans une fondation qui, donc, achète des brevets et donc s'occupe aussi, évidemment, de la gestion des problèmes qu'il peut y avoir, que peut rencontrer Linux. Donc, en gros, IBM et Microsoft protègent, sont devenus les protecteurs de Linux et du logiciel libre en général, hein, à hauteur de quand même de 105 millions de dollars, hein, pour l'Open Invention Network. Ce qui est vraiment marrant, ce qui est évidemment à saluer, et c'est vrai que c'est un virage tellement incroyable de la part de Microsoft par rapport à ce qu'il était il y a 10-15 ans, que c'est ça n'est vertigineux.
On va passer à une rubrique plus scientifique dans les news, avec, tu nous as dégoté, un four solaire, Guillaume. C'est bien inédit d'avoir un four solaire dans ce type d'émission.
Ouais, le solaire fait un four, effectivement. Mais c'est un gros four. Alors, c'est Heliogen. Donc, Heliogen, c'est une boîte qui a attiré pas mal d'investisseurs, dont Bill Gates, d'ailleurs, qui a investi dedans. Et alors, pourquoi on en parle? Tout simplement parce que c'est une autre manière d'utiliser l'énergie solaire. Parce que d'habitude, effectivement, on a des panneaux solaires, donc ça transforme la lumière en électricité. Là, c'est pas du tout le but. Le but, c'est de faire un four solaire. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des miroirs qui vont accueillir une certaine quantité de lumière et qui vont la concentrer sur un point spécifique. Alors, évidemment, comme ça, ça a l'air assez facile, sauf quand vous avez des milliers de miroirs et que vous voulez atteindre des températures très 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 élevées, parce que du coup, vous devez, vous avez des miroirs, les miroirs, forcément, ils n'ont jamais exactement la géométrie qu'ils devraient avoir en théorie, et il faut évidemment les orienter avec une précision extrême pour pouvoir les concentrer sur un point le plus petit possible. Et donc, qu'est-ce que vous faites quand vous avez des problèmes comme ça? Ben, vous avez recours à des logiciels ultra sophistiqués. Donc, vous avez des logiciels de vision par ordinateur qui analysent très précisément la disposition des miroirs et qui, donc, apprend quelle est la meilleure manière de les positionner. Et ça a tellement bien marché qu'ils sont arrivés à dépasser 1000 degrés dans leur four solaire. Alors, pourquoi c'est super intéressant? Tout simplement parce que 1000 degrés, ça suffit déjà pour utiliser ce four comme un four industriel. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de trucs. Quoi. Vous voulez faire de l'acier, quand vous voulez faire du ciment, quand vous voulez faire du verre, vous avez besoin d'avoir des températures très élevées. Les températures très élevées, en général, c'est des fours où vous utilisez de l'énergie fossile, quoi, hein, c'est des fours. Là, c'est un four solaire, ce qui fait qu'en fait, il a juste zéro émission. Vous avez un four qui chauffe comme un four industriel, sauf qu'il n'y a pas d'émission. C'est juste le soleil qui fait ça. Alors, évidemment, ça marche quand il fait beau. Je suis d'accord, mais c'est quand même déjà un progrès. Et puis surtout, si on continue comme ça, et ils disent qu'ils peuvent augmenter encore la température, on pourrait arriver à des moments où ça pourrait devenir carrément très 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 intéressant, voire être un game changer, parce que si on arrive à dépasser les 1500 degrés, on peut faire une électrolyse thermique, en fait. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que, globalement, qu'est-ce qui est emmerdant avec la voiture à hydrogène? Outre le fait que c'est une véritable bombe sur roue, mais ça, bon. C'est que il faut fabriquer de l'hydrogène. Tu vois ce que je veux dire? Le moteur à hydrogène, c'est super, ouais. ça pollue pas. Il faut fabriquer de l'hydrogène. Donc, fabriquer de l'hydrogène, ça veut dire, globalement, prendre de l'eau et la casser en deux.
Enlever l'oxygène.
Ouais. Casser en deux de l'eau, c'est facile si tu as de l'électricité. Le problème, évidemment, c'est que d'où vient cette électricité? Donc, si tu arrives à avoir une énergie totalement propre pour fabriquer de l'hydrogène, bah, du coup, tu peux utiliser de l'hydrogène comme carburant. Ça devient très, très avantageux. Le truc, c'est que il semblerait qu'il soit possible de fabriquer spontanément ou presque, en fait, l'énergie qu'il faut fournir à l'électrolyse, dépend de la température. Au plus la température est haute, au plus cette énergie va être faible, et à partir d'un moment, elle est spontanée. C'est-à-dire que tu mets de l'eau et ça s'électrolyse automatiquement. Donc tu fabriques.
Et boum, on en fait de l'hydrogène.
L'hydrogène se fait spontanément. Mais pour ça, il faut chauffer jusqu'à 1400 ou 1500 degrés, je sais plus. Donc c'est quand même nettement au-dessus de ce qu'ils font. Cela dit, s'ils arrivent à faire un four solaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune émission, qui est capable de faire une électrolyse comme ça spontanée, ça pourrait être une véritable source d'hydrogène. Et du coup, bah, ça pourrait devenir une source de carburant très intéressante.
Tu prends un four solaire hyper puissant, tu mets de l'eau dedans et boum, tu génères de l'hydrogène pour les moteurs à hydrogène. Mais est-ce qu'on peut le faire en grande quantité du coup?
C'est encore expérimental. Mais c'est vrai que c'est une piste de se dire, bah écoute, autant utiliser le soleil, voilà, hein, c'est l'énergie. Mmh. Autant utiliser l'énergie sans forcément passer par l'électricité. Donc c'est une piste, tu vois, pour utiliser l'énergie solaire sans forcément passer par l'intermédiaire électricité, qui évidemment implique des pertes et de la complexité supplémentaire en quelque sorte.
On continue notre petit tour des sciences avec, tu nous as décoté, une nouvelle forme de carbone, une forme magique de carbone. Tu me fais rêver, t'as trouvé de la kryptonite ou quoi, Guillaume?
Mais bien entendu, en fait, c'est des chercheurs de l'université du Massachusetts qui se sont manqués. Ils voulaient faire un truc avec du carbone, ils voulaient créer je sais pas trop quoi, et ça a complètement foiré, et du coup ils ont retrouvé un état bizarre du carbone nouveau. Donc c'est un accident. Donc c'est un truc qui est quand même plus solide que l'acier, qui est aussi conducteur que l'acier, qui est réfléchissant comme un super miroir, et bizarrement il devient magnétique au-dessus de 125 degrés. Donc ça devient un aimant au-dessus de 25 degrés, on ne sait pas trop pourquoi, un aimant permanent. Et donc il peut aussi devenir semi-conducteur hein, si tu fais un traitement spécial dessus. Bref, c'est un nouveau matériau qui est léger, a priori non toxique, avec plein de propriétés bizarres.
A priori non toxique.
Oui, a priori non toxique. C'est du carbone, donc a priori c'est pas toxique. Et ça se présente sous la forme de couches de carbone formées d'anneaux de 6 ou 12 atomes, donc c'est une feuille qui est ondulée apparemment. Et pour l'instant, je te le donne en mille, il appelle le U-carbone, U pour unusual. C'est dire si
on est
encore au début. Encore au début des trucs, quoi. Mais bon, c'est prometteur.
On en est vraiment au stade expérimental. Une dernière news, un peu sous l'angle scientifique, et donc on sort de nos processeurs, mais pour aller explorer le monde de la cryogénisation, plutôt du cryosommeil, Guillaume, et c'est pas de la science-fiction.
Ouais, parce que évidemment, dans beaucoup de films de science-fiction, pour aller dans l'espace, on te place en cryosommeil, c'est parce qu'évidemment, les voyages durent super longtemps, donc tu peux dormir comme ça sans vieillir. Parce que dormir, on peut toujours y arriver, hein, mais dormir sans vieillir, ça c'est plus compliqué, et donc voilà, tu peux dormir je sais pas, en cryo-sommeil, effectivement, souvent c'est à peu près comme ça qu'on l'appelle dans les films. Mais bon, c'est de la science-fiction, voilà, on ne peut pas aller sur Saturne comme ça pour le moment, sauf que dans le Maryland, ils vont quand même tester un truc qui s'en rapproche quand même diablement. Alors il faut savoir qu'aux urgences, ils voient passer tout, et souvent ils voient passer malheureusement des gens qui sont grièvement blessés, et qui ont quelques minutes, quelques dizaines de minutes à vivre, parce que ben voilà, c'est la blessure est critique, etc., à tel point que les chirurgiens n'ont pas le temps d'intervenir. S'ils avaient eu plus de temps, et ça se voit assez souvent, hein, s'ils avaient eu plus de temps pour intervenir, ben, ils auraient pu sauver le patient. Donc sauver le patient, ben, comment on fait quand on n'a pas de temps? Ben, on s'en donne, et comment on s'en donne? C'est en injectant, enfin, en tout cas, a priori, en injectant une solution saline qui est autour, enfin qui est très très froide, donc à la place du sang quelque part, on injecte donc en intraveineux ce truc-là, ça va faire baisser la température du corps entre 10 et 15 degrés, et à cette température, il n'y a quasiment plus d'activité cellulaire. Il n'y a plus d'activité cellulaire, donc le mec, il est congelé, voilà, c'est façon Picard. Et donc, il est conservé comme ça pendant beaucoup plus longtemps. Alors évidemment, il n'est pas conservé comme ça pendant, comme chez Picard, pendant des années, hein, mais ça peut donner jusqu'à 2 heures, en fait, là, il table sur 2 heures de suspended animation, quoi, de cryo-sommeil, on va dire. Et pendant ces 2 heures, ben, ils peuvent faire leur intervention, et après, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils le mettent sur décongélation au micro-ondes, et ça revient. Et ça revient. Alors, ils ont fait des tests sur les animaux, hein, ils ont réussi à conserver des cochons pendant jusqu'à 3 heures, je crois, il me semble. Ah, et donc, il y a un test de 10 personnes qui vont recevoir ce traitement-là. Enfin, évidemment, c'est pas a priori, hein, ce seront des gens qui seront en urgence vitale absolue.
C'est pas des gens qu'on va tirer au sort au hasard parmi la population, effectivement.
Non, c'est des gens qui seront en urgence vitale absolue, qui vont arriver aux urgences et que, ben, on se dira, bon, ben, ok, ben, lui, on va tester. Voilà, de toute façon, sinon, il va mourir. Mm. Donc, on va tester, on va le congeler. Et puis, on va essayer de le dégeler après pour voir si ça fonctionne. Alors, c'est des trucs, évidemment, pour l'instant, on ne sait pas si ça va très bien fonctionner, c'est un test. Ça pourrait sauver des vies, hein, dans la vie quotidienne, c'est pas du tout pour aller sur Saturne, c'est pas du tout pour aller faire des voyages dans l'espace. C'est pas du tout un truc de science-fiction, c'est vraiment pour essayer de donner du temps aux médecins pour intervenir sur des patients qui sont en urgence totale, quoi. Donc c'est super intéressant à suivre néanmoins.
En tout cas, ce qu'on envoie pour l'instant dans l'espace, c'est plutôt des ordinateurs, hein, un peu plus facilement, Guillaume. Et justement, on avait Cédric Tamboise, pour ceux qui se rappellent, de cet acteur clé de l'histoire de Tablette Café de l'époque et de Tech Café, qui avait partagé un article qui est un bon prétexte pour prendre la parole sur le sujet et nous éclairer sur ce domaine-là, celui des processeurs de l'espace. En gros, comment ça fonctionne, l'envoi d'ordinateurs dans l'espace et quel est surtout le fonctionnement du niveau des processeurs, quel choix il faut faire. C'est un petit peu le sujet de ce dossier dans cet épisode de La Puce à l'Oreille. Guillaume, raconte-nous comment ça se passe si je vais envoyer un ordi dans l'espace.
Oui, ben, c'est vrai, quand on parle de voyage dans l'espace, on est toujours à l'extrême limite de la science-fiction. On se dit que logiquement, la NASA a accès à l'état de l'art, tu vois, en matière de technologie. Est-ce qu'on ne dit pas un PC de la NASA, déjà? Bon, tu vois, en passant des gros PC. Bon, les vaisseaux spatiaux, les robots, c'est à la pointe de la technologie, tu vois. Bon, ben oui, c'est à la pointe de la technologie de 97. Le rover Curiosity, il a un processeur qui tourne à 200 MHz, et c'est l'équivalent d'un Pentium 2 de 98. Curiosity, il a été lancé en 2011. Mais encore aujourd'hui, un robot lancé dans l'espace, il n'a pas accès à beaucoup plus de puissance, en fait. Hein. C'est pas une question de prix, hein, puisqu'un RAD 750 coûte 200 fois le prix d'un iPhone, tout en étant 50 fois moins puissant.
C'est quand même paradoxal, là, pour le coup.
C'est... Oui, hein. Et pourquoi tu ne lances pas des CPU d'iPhone? Ça ne consomme pas beaucoup, c'est efficace. Hein. Et du coup, les Russes ont essayé, plus ou moins. Enfin, ils ont essayé pour Phobos Grunt, qui devait aller sur Phobos, hein, comme son nom l'indique, hein, la lune de Mars. Ben, ils ont pris des composants de niveau militaire, donc durcis, mais beaucoup, beaucoup moins chers que les composants spatiaux. Et résultat, un court-circuit dans la SRAM à cause du rayonnement cosmique, et le processeur qui a vu un souci, gros souci, il a rebooté, et donc il s'est mis en safe mode, et là maintenant, ben, il prend plus aucune connexion rentrante, et il dérive tranquille en orbite basse depuis. Bon.
Ils ont briqué le truc, quoi.
Ils ont briqué leur téléphone, le problème c'est qu'il est très 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 loin. Donc, on ne se rend pas compte, hein, ici sur Terre, on ne se rend pas trop compte, mais dans l'espace, l'espace, en fait, c'est super hostile. C'est pas seulement parce qu'il y fait moins de 270 sans aucune atmosphère, déjà, c'est assez hostile, Mais le vide spatial, en fait, il est constamment traversé par un rayonnement cosmique hein, qui est constitué d'ions, globalement, donc des particules légères, chargées en général, et qui se baladent à toute berzingue, dans toutes les directions. Elles sont émises par les étoiles, hein, le Soleil en premier lieu, mais aussi dans la galaxie, en dehors de la galaxie, en même temps, en fait, hein, il y a des quasars. Quasar, c'est quasi-star objects, quasi-star, qui émettent des trucs tellement énergétiques qu'on ne sait même pas exactement comment c'est possible qu'ils soient aussi énergétiques. D'ailleurs, les quasars, en fait, on les appelle les quasi-stars parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, globalement.
Et ce ne seraient pas des trous noirs qui pulsent de l'énergie, non? C'est pas ça?
Les trous noirs, ils ont des rayons, ils peuvent effectivement, je crois qu'ils peuvent même mettre des rayonnements Hawking, ce genre de trucs, mais les trous noirs, en général, ils émettent pas grand-chose. Ils n'aiment pas grand chose. Ou alors il y a peut-être des. Ah oui, tu parles des faisceaux. Les faisceaux.
Oui, c'est ça, les trucs qui sont projetés aux deux. Enfin, que je vois schématisés comme étant projetés aux deux pôles, d'après les descriptions que j'en ai vues à mon niveau, mais je me trompe peut-être. Hein.
Bon, enfin, tous les cas, on parle juste, si tu veux, même plus prosaïquement, de protons, d'électrons et de noyaux d'hélium, hein, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on subit quand on est soumis à de la radioactivité, en fait. Hein. Et on sait, on avait vu à Fukushima, qu'une source puissante de radioactivité, bah, ça peut cramer les appareils assez facilement. Alors, dans l'espace, c'est différent. Il y a beaucoup, beaucoup moins de particules, mais elles sont beaucoup plus énergétiques. Donc, typiquement, dans le 10 puissance 19 électronvolts, alors bon, ça correspond à plus d'un watt pendant une seconde, en fait, 10 puissance 19 électronvolts. Alors, c'est quand même pas mal d'énergie. Un watt pendant une seconde, c'est quand même pas mal d'énergie pour une particule qui est quand même plus petite qu'un atome, puisque c'est des noyaux atomiques hein, ou des électrons, donc c'est quand même encore beaucoup plus petit qu'un atome. Donc, c'est vraiment des trucs assez vénères. Et bon, au début de la conquête spatiale, quand les ordinateurs pesaient 25 kilos, avec des cellules mémoire qui étaient visibles à l'œil nu, bon, les particules, tu vois, elles leur en touchaient une sans en faire bouger l'autre, si je puis dire, les particules cosmiques, donc ça allait à peu près. Et puis bon, depuis, évidemment, on a fait des progrès. On a des circuits CMOS qui sont minuscules, avec des structures très fines, et là, l'énergie apportée par les particules peut facilement créer des courts-circuits. Ça, en fait, c'est des courts-circuits, pourquoi des courts-circuits? Parce que c'est vrai que les particules, elles passent très rapidement, et bon, ça peut faire des impulsions comme ça peut apporter de l'énergie très rapidement, mais pourquoi des courts-circuits? En fait, ça s'appelle des latch-up, comme ils appellent ça, et c'est une conséquence de la manière dont on fait nos transistors sur les circuits intégrés. En gros, un transistor, c'est un sandwich de silicium. Sur une puce, on a plein de sandwichs de silicium qui sont juxtaposés comme ça. Donc on a
mille feuilles de silicium, quoi.
On a des bon, c'est les sandwichs. Donc quand je dis sandwich, c'est parce que le silicium, en fait, il est dopé de manière positive ou négative. Il est plutôt positif, plutôt négatif. On rajoute des atomes qui sont donc qui ont tendance à avoir un électron en plus ou un électron en moins, enfin un électron en plus ou un électron en moins, qui se lie en tout cas avec le silicium de manière à ce qu'il y ait plutôt des trous d'électrons ou plutôt des électrons qui puissent se balader. Donc on a plutôt des trucs N avec des électrons qui se baladent, P avec des trous qui se baladent. Et donc globalement faire des composants électroniques, c'est faire des sandwichs de ces siliciums dopés plus ou dopés moins. Voilà. Et donc, en particulier, un transistor, c'est dopé. C'est un sandwich en trois trucs. Hein, avec, donc, vous avez le pin positif et le négatif au milieu, ou l'inverse d'ailleurs, si vous avez le NPN. Et donc, en gros, un circuit intégré, on a plein de zones N et P qui se juxtaposent comme ça, forcément, puisqu'on a plein de transistors à côté, on a aussi d'autres trucs d'ailleurs, hein, et donc c'est toujours des trucs comme ça. Et donc, en coupe, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a des petites structures à la surface qui forment les composants. Et puis, on a le bulk, on a ces structures-là, ces petites structures, elles sont gravées sur des structures plus grosses, hein, plus larges, en dessous, le substrat. Et elles aussi, elles sont dopées, positivement ou négativement. Et elles se juxtaposent, elles aussi. Et en fait, elles forment vaguement des transistors. Donc, elles forment des composants accidentels. Donc, ça veut dire que sur une puce, vous avez les puces qu'on veut graver, les composants qu'on veut graver à la surface, et dans le corps, dans le volume, vous avez aussi des composants accidentels qu'on ne veut pas, et qui sont là, mais on ne fait pas exprès.
C'est rigolo.
Et normalement, ces composants accidentels, évidemment, il y a des valeurs de résistance qui dépendent de la taille des zones, etc. Donc, en gros, avec les voltages qu'on applique sur les trucs et tout, normalement, le courant n'est pas censé se balader dans ces zones-là. Il n'est pas censé passer. Donc, en fait, il ne se passe rien, normalement. Quand on applique les bons voltages où il faut, les résistances font qu'il ne se passe rien. Donc, le courant doit passer par les endroits prévus et dans un certain sens. Seulement, voilà, imaginons qu'une particule très énergétique passe par là, ou pas loin de là. Elle va échanger l'énergie avec le milieu, elle va former des champs électriques. Et ces champs électriques, ça peut appliquer des voltages là où ça ne devrait pas. Et en particulier, il est possible qu'elle active une structure accidentelle en inversant les polarités. En gros, si tu inverses les polarités à un moment, une zone négative peut se retrouver trop positive, et du coup, dans le design designer des transistors, cette structure parasite, il peut arriver qu'elle s'active. Donc cette structure parasite, en général, a une forme qui est assez bien délimitée. C'est deux transistors accidentels qui vont s'alimenter l'un l'autre. Et donc s'ils s'activent, c'est la cata. Parce que en gros, il y en a un qui active l'autre, il y en a un qui active, tu vois, il y en a parce qu'un transistor, donc tu as la, en gros, tu as l'émetteur de l'un qui est sur la base de l'autre. Tu vois, et donc ça forme une boucle comme ça. Et si cette boucle est activée, ben les transistors sont activés, et donc le courant il peut passer en fait du collecteur de l'un à l'émetteur de l'autre. Du coup, ça chauffe, ça fait le courant passe directement, ça fait un court-circuit, ça chauffe et ça peut endommager le truc. Donc la chop, ça peut endommager le circuit, ça peut aussi donner des dysfonctionnements en général. Il faut couper juste complètement le courant et redémarrer. Parce que une fois que le latch-up est établi, ben c'est mort, si tu veux. Il faut couper le courant pour désactiver les transistors qui se sont activés dans le corps du truc. Donc globalement, il faut redémarrer. Donc c'est quand même, tu vois que c'est quand même un souci qui est important, quoi. Alors bon, en plus, ça aide pas que les CPU aillent de plus en plus vite, parce que la particule, elle peut mettre le why que pendant qu'il se passe quelque chose, si tu veux. Donc il y a une fenêtre où les mouvements de charge autour d'un top d'horloge, en gros, pendant ce top d'horloge-là, autour de ce top d'horloge-là, si une particule passe, elle peut mettre le why. Bon. Donc globalement, 1 MHz, c'est 1 million de micro-fenêtres par seconde, bon. Ou foutre le why. 1 GHz, c'est 1000 fois plus d'opportunités de foutre le why et donc d'avoir des problèmes. Donc au plus un processeur va vite, en plus, au plus il va être sujet à ce genre de soucis.
On augmente la sensibilité en fait au problème, on l'augmente la chance qu'il y ait des problèmes. En fait.
Exactement, plus les trucs sont petits, miniaturisés et vont vite, au plus ils sont sensibles à ce genre de soucis. Et donc pour rendre résistant une puce aux radiations, en gros, il faut couper ces composants parasites dont j'ai parlé là. Ou alors il faut le rendre les moins probables possibles. Donc tu peux utiliser des matériaux différents hein, potentiellement.
On peut pas donc, faire plus attention en fait, c'est pas possible.
Ben, le truc c'est que si tu peux utiliser des matériaux différents, mais le truc c'est que utiliser des matériaux différents, ça veut dire faire des usines spécifiques quoi. Faire une usine
de CPU, ça fait beaucoup pour l'espace. Un petit truc, ouais, d'accord.
Exactement. Combien on fabrique de CPU pour aller dans l'espace? Vu le nombre de missions spatiales qu'on fait, ça veut dire que c'est une usine qui va tourner pour, je sais pas moi, 10 et 10 plus par an. Enfin, ça n'a aucun sens.
C'est pas très rentable, ouais.
Donc c'est impossible. Enfin, pour l'instant, aujourd'hui, c'est impossible. Donc on préfère, en fait, conserver le silicium et donc changer les designs, c'est-à-dire changer la manière dont on fabrique les puces pour éviter au maximum qu'il y ait des composants parasites, si possible. Par exemple, on ajoute des couches d'isolant, là où il faut. On peut rajouter des connexions, on peut rajouter des redondances aussi. Donc, on a les puces spatiales. Chaque bit peut être triplé. C'est-à-dire, on peut tripler les bits. On peut aussi utiliser des codes correcteurs d'erreurs. On peut faire les deux, d'ailleurs.
Ok.
Et donc chacune des trois copies du bit en plus va être localisée à un endroit différent de la puce. Comme ça, s'il y a une particule qui passe à proximité de l'un d'eux, les deux autres ne sont pas affectés. Le principe c'est simple, hein, c'est un vote, c'est-à-dire que tu as trois bits. Ces trois bits, ben normalement ils ont tous les trois 1 ou tous les trois 0. Bon, s'il y en a une qui se prend un truc dans la tronche, ben il peut être pas d'accord avec les autres. Enfin, il y en a quand même deux qui sont à 1 ou à 0, et donc on prend le maximum. Bon, ben, ok, s'il y a deux trucs à 1, ça veut dire qu'il y en a un qui a déconné, on prend les deux. Tu vois, parce qu'il est extrêmement
improbable. D'où l'intérêt d'en avoir 3, ça aurait pas d'intérêt de le faire avec 2, du coup. Parce que...
Exactement, avec 2, tu prends qui? Tu sais pas. Alors qu'avec 3, tu sais que tu prends la majorité. Donc ça marche très bien, en fait.
Et la probabilité qu'il y en ait 2 qui soient affectés en même temps est finalement assez faible, non?
Elle est excessivement faible parce qu'ils sont pas localisés au même endroit. Parce que sinon, si tu les mets tous au même endroit, ils pourraient être affectés à la fois.
Okay.
Mais donc, s'ils sont dispersés sur la puce, mais du coup, évidemment, ça rajoute une complexité quand même assez majeure à fabriquer des puces avec des bits comme ça un peu éparpillés. Donc, et voilà. Et donc, tout ça, évidemment, bah, qu'est-ce qui se passe, hein? Ça handicape les performances et évidemment, c'est très cher. Mais bon, ça peut quand même faire des ordinateurs qui peuvent passer des années dans le vide spatial et la surface d'une autre planète. Alors, respect quand même, hein, un petit peu. Donc, à l'ESA, on a une puce qui s'appelle le Léon. Donc elle va...
Comme le prénom.
Ouais, on va bientôt, exactement, Léon va bientôt adopter le GR740, le Léon GR740. Donc c'est par Cobham Geisler, c'est un quadricœur de 32 bits sur architecture Spark V8 à 65 nanomètres et 250 MHz, qui est produit, fabriqué par ST Microelectronics. Et du coup, ce truc-là, il a une fiche technique, hein. Et on peut voir qu'il utilise la triple redondance pour ses registres. Le cache utilise des codes de correcteur d'erreur, donc il peut invalider les données corrompues et sans interrompre le programme, en fait. Hein, il est résistant aux fautes, il est fault tolérant. Et au total, en orbite terrestre, le truc ne devrait pas avoir rebooté avant 300 ans, en moyenne.
C'est génial. C'est mieux que Windows, pardon. Excusez-moi.
C'est... Non, mais tu vois, donc même bombardé par des rayonnements machin, là, il peut quand même durer 300 ans en moyenne sans rebooter. Et puis bon, après, s'il reboote, il en marche. Hein. C'est juste que bon, il faudra rebooter. Chez les Américains, par contre, le dernier né de chez BAE, c'est le RAD 5545. Et il va à la vitesse folle de 466 MHz.
Ah oui, c'est beaucoup plus rapide, du coup.
Ben, c'est beaucoup, oui, effectivement. Et il consomme dans les 20 watts, par contre.
Ah.
Et c'est problématique. C'est un peu problématique, en fait. Parce que, en fait, la dissipation thermique dans l'espace, c'est pas la même chose que sur Terre. En gros, comment tu dissipes la chaleur ?
Dissipation thermique à moins 270, c'est peut-être moins problématique, non ?
Oui, c'est vrai. Mais le truc, c'est que t'es à moins 270 quand t'es à l'ombre. Quand t'es au soleil, c'est
oui,
pas pareil.
Ok, pardon, bien vu. Ouais.
Et du coup, il y a un gros souci, effectivement, entre ombre et soleil. Il y a des disparités thermiques énormes. Et évidemment, en plus, il n'y a pas de... Comment dire ? Il y a pas d'air, ou il y a pas d'eau, il y a pas d'air. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a rien qui puisse transporter la chaleur et la diffuser d'un endroit à un autre. Donc, tu peux pas faire un ventilateur, par exemple, ça a pas de sens. Donc,
tu peux pas faire.
Donc, chauffer, la chauffe, c'est un problème vraiment spécifique dans l'espace aussi. Et donc, du coup, si on repart sur Léon, lui, il se contente de 1,5
watts. On pourrait pas les watercooler, enfin, les faire comme les supercomputers, là. Bon, c'est encore une fois très théorique, hein, puisqu'on a vu que déjà, sur Terre, on en est au stade un peu de l'expérimentation. Mais à terme, qu'est-ce qui nous empêcherait de faire des trucs à base de liquide comme ça?
Mais c'est pas strictement impossible, hein. Je pense que c'est tout à fait envisageable.
Ça bourrait comme ça. Comment ça fait d'ailleurs de l'eau qui boue dans l'espace, je sais pas.
C'est tout à fait possible. Le problème, si tu veux, c'est que le water cooling, c'est refroidissement à air à la base. Hein. Le water cooling qu'on utilise dans les PC.
Ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'était pas du water cooling, c'était plus ça plongeait dans un liquide qui répartissait du coup la chaleur.
Oui, effectivement. Oui. Mais c'est pas forcément possible. Mais là encore, tu vois, le problème, c'est que le point, par exemple, si on prend l'exemple d'auto, là, c'était donc un liquide organique qui bouillait à 60 degrés. Bon, tu le mets dans l'espace. Oui. Donc, en gros, il passe 60 ans à l'état liquide, 60 ans à l'état gazeux. Puisque soit il est très froid, soit il n'est pas très froid, tu vois. Donc, c'est un gros souci, en réalité, de trouver des matières comme ça, qui, c'est un très, très gros souci. Et donc, bon, je disais, donc, le Léon 4, effectivement, il est moins rapide, hein, c'est vrai, mais il consomme que 1,5 watts. Donc, il est moins rapide, mais en fait, il est beaucoup plus efficace. Sachant qu'on peut quand même utiliser plusieurs processeurs. C'est-à-dire, tu peux avoir des cartes mères avec plusieurs CPU dessus, quand même, heureusement. Mm-hmm. Heureusement. Et donc, nous, on utilise Spark, qui est une architecture libre. Alors que les Américains, jusqu'ici, utilisent plutôt du PowerPC, donc qui est une architecture d'IBM. Hein. Mais bon, la prochaine génération va passer sur ARM, donc comme tout le monde, en fait, hein, comme les téléphones mobiles, etc. Et comme l'iPhone, hein, comme on en parlait. Donc, et la NASA et l'Air Force, d'ailleurs, et Boeing. Ils vont collaborer là sur une nouvelle puce qui s'appellera le HPSC pour High Performance Space Computing. Non, ça s'invente pas. Et donc ce sera, attention, High Performance, ce sera un Cortex A53, c'est-à-dire le cœur du Raspberry Pi 3, hein, n'oublions pas.
Oh, vache.
Qui va probablement être beaucoup moins rapide que celui du Raspberry Pi 3, puisque espace. Mais bon, globalement, c'est quand même un beau truc, parce que le HSPC, ce sera un CPU moderne, hein. Donc il y aura du SIMD, il y aura des registres vectoriels, des capacités multimédia qui vont booster un petit peu l'aspect sexy des missions spatiales, on espère, tu vois, parce que tout ce qu'on imagine dans l'espace, réalité augmentée, robots autonomes ultra sophistiqués, véhicules bourrés de capteurs temps réel, tu vois, c'est important d'avoir un bon monitoring, hein, s'il y a des gens sur place surtout, hein. Mais tout ça va demander des gigaflops, et le HSPC, forcément... Il ne sera pas de trop, hein, quand il arrivera. Et il arrivera vraisemblablement fin 2022. Donc oui, fin 2022. Les astronautes auront à la disposition à peu près la moitié de la puissance d'un smartphone à 50 balles. Oui, c'est impressionnant, je sais.
Ah, c'est beau l'évolution, c'est très chouette. Je me posais la question tout à l'heure, on pourrait pas, pour protéger un peu ces processeurs-là, et peut-être que c'est déjà fait, mais les entourer d'un matériau qui pourrait justement les protéger des rayonnements, etc. Non, c'est pas possible.
Alors, c'est le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut... Alors, est-ce que c'est possible ou pas ? Oui, c'est théoriquement possible, comme on peut isoler des sources radioactives, hein, c'est tout à fait possible. Ouais. Le problème, c'est que ça demande d'avoir une armure autour des composants. Et ça, c'est du poids. C'est du poids supplémentaire.
Oui, c'est vrai.
Si tu veux les isoler complètement du milieu extérieur, il va falloir des trucs vraiment, vraiment épais, et bon, ça fait beaucoup plus de poids sur les trucs, et tu sais que, d'ailleurs, on va en reparler, mais... On va en reparler tout de suite d'ailleurs avec Starship. Ouais. Mais le poids, c'est un des trucs. Enfin, je veux dire, le sport national, enfin le sport national, le sport numéro un d'un mec qui fait qui lance des fusées, c'est de réduire le poids
bien sûr.
Ce qu'il envoie. Donc oui, c'est en théorie, oui, je pense qu'on pourrait faire des trucs qui protègent du rayonnement, mais ça serait compliqué de le mettre en œuvre et de l'envoyer, je pense.
Ok, un petit éclairage sur l'acier, Guillaume, et le matériau de prédilection d'Elon Musk.
Ouais, parce qu'à l'occasion de la présentation de Cybertruck, là, j'avais dit qu'Elon Musk était un fan d'acier. Hein. D'ailleurs, c'est lui qui l'a dit. Il a dit, dans la presse américaine, on l'appelle d'ailleurs Man of Steel. Dit j'adore l'acier, parce que oui, Cybertruck a une carrosserie en acier, et surtout t'as vu la tranche de Starship, ça fusait.
C'est magnifique.
C'est trop. Alors le Cybertruck, je sais que t'aimes pas trop, mais Starship, c'est marrant parce que c'est une fusée du futur, donc est censé paver la voie à la colonisation interplanétaire de l'humanité quand même, hein, donc voilà, c'est vraiment le futur, et pourtant ça ressemble à la fusée de Tintin, tu vois, ça ressemble à un truc en ferraille, parce que en fait elle est en ferraille, elle est en acier. Et l'acier, c'est du fer et du carbone, hein, avec une teneur variable qui donne différentes propriétés. Hein. Quand il y a beaucoup de carbone, on parle de fonte, par exemple, et quand il y en a moins, on parle d'acier. Et donc l'acier, pourquoi l'acier ? Ben, l'acier, c'est solide quand même, hein, donc on le voit. Mais le problème, c'est qu'on n'en voit pas souvent sur les fusées. Pas depuis longtemps, en tout cas. Alors ici, on parle de propulseur, d'ailleurs, hein, de véhicule de lancement. Le truc qui va venir contenir le carburant et les réacteurs, qui doit donc décoller la cargaison et la mettre en orbite. Alors, dans le temps... Dans les années 60, hein, les fusées Atlas étaient en acier. Donc ça se faisait. En gros, c'est parce qu'on ne savait pas assez bien usiner l'aluminium. Donc les fusées, elles étaient en acier, et on ne les peignait même pas pour économiser le poids. C'est pour te dire. Le poids, c'est le nerf de la guerre. Donc hein, plus de poids, c'est plus de puissance. Plus de puissance, c'est plus de carburant. Plus de carburant, c'est plus de poids. Et hop, c'est horrible. Donc on veut envoyer une cargaison qui pèse un certain poids. Mais en fait, le propulseur est beaucoup plus lourd. Et au plus il est lourd, au plus il faut arracher de poids, etc. Du coup, même une couche de peinture, c'est trop, en fait. Donc l'acier utilisé de lui-même devait être le plus fin possible. Donc il faisait entre 2,5 et 10 mm sur un truc qui avait la taille d'un immeuble. Donc comment ça peut tenir ? Ben ça tient pas. Ben ça tient pas. Ça tient pas, bien sûr que non. Il faut le mettre sous pression. En fait, c'était des ballons d'acier. On gonflait littéralement les fusées d'acier parce que l'acier était tellement fin qu'au moindre défaut de pressurisation, elles s'effondrent. Et d'ailleurs, c'est arrivé. Hein. C'est arrivé de manière assez spectaculaire. Donc, depuis, ben, on s'est tourné vers l'aluminium ou des alliages avec du lithium, par exemple, comme pour Falcon 9, qui ont un rapport poids-résistance qui est meilleur que l'acier. Il a un peu moins bon que la fibre de carbone, mais la fibre de carbone, c'est beaucoup plus compliqué à manipuler, c'est beaucoup plus cher, surtout. Faire de grosses structures en fibre de carbone, c'est ultra cher. Donc, l'alu, par contre, il a un désavantage, c'est qu'il conduit très bien la chaleur. Donc, en gros, la chaleur se diffuse super vite dans le métal, et c'est un souci, pour les fusées en particulier, parce que le carburant des fusées, il est à moins de 200 degrés. Parce que bon, beaucoup de fusées qui sont utilisées, hein, la plupart peut-être, je ne suis pas spécialiste, mais beaucoup de fusées utilisent des carburants qui sont des gaz liquéfiés. Donc souvent de l'hydrogène liquide, ou un truc bien inflammable, tu vois, comme de l'oxygène liquide, et évidemment ils ont aussi un comburant, donc ils prennent aussi de l'oxygène liquide comme comburant. Oui, le comburant est obligatoire ici, hein, parce que sur Terre, quand tu allumes ta gazinière, qu'est-ce qui se passe ? Le butane va subir une réaction avec l'oxygène, il va donner du CO2 et de l'eau. Bon, c'est tout ça, qu'en étouffant une flamme, quand tu la prives d'oxygène, elle s'éteint. Alors ça, c'est pour les feux courants. En fait, la réaction, c'est une oxydoréduction chimiquement, et tu peux faire brûler des trucs sans oxygène. Tu peux faire brûler de l'hydrogène, par exemple, avec du chlore, ça peut marcher aussi. Mais bon, en tout cas, il faut toujours quelque chose pour faire la réaction, si tu veux, d'oxydoréduction. Donc en gros, cramer un truc, c'est une réaction chimique entre un carburant et un comburant. Et comme il n'y a que dalle dans l'espace... Ben non seulement il faut emporter son carburant, mais il faut aussi emporter son comburant. Comme si c'était pas déjà assez galère, tu vois.
C'est vrai que c'est chiant, putain, tout ce qu'on met en œuvre pour aller dans l'espace, quoi.
Et donc un moteur fusée, en gros, c'est brûler un truc ultra inflammable, de l'hydrogène, qui va en plus de se détendre violemment en passant de l'état liquide à l'état gazeux. Et donc toute cette belle énergie devait être canalisée vers le bas, de préférence, pour faire une fusée. Donc un réservoir de fusée, ben, c'est un énorme sac Picard, tu vois, ça doit contenir le froid le mieux possible. Sauf que l'alu, il n'est pas du tout doué pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la base des fusées, je sais pas si tu vois la base d'une fusée, souvent il y a des panaches de fumée, comme ça, qui c'est quoi ? Ben, en fait, c'est le dégazage du réservoir qui se réchauffe, en fait. Tout ça, c'est du carburant qui est perdu. Et pour éviter au maximum ça, la Falcon 9 d'ailleurs, qui n'a aucune isolation, hein, elle remplit son réservoir au tout dernier moment pour limiter les pertes au maximum. Donc en fait, quelques minutes avant de foutre le feu, tu remplis le truc. Donc, c'est assez c'est à la one again, mais bon, ça économise du carburant. Et donc toujours pour réduire le poids, les réservoirs ont des structures en nid d'abeilles, hein, à l'intérieur. Donc des structures en nid d'abeilles, c'est super, mais comment tu le fais? En fait, en gros, tu fais un gros truc bien épais. Et ensuite, tu pelles l'intérieur pour ne laisser qu'une armature avec une couche très fine. Donc c'est léger, c'est résistant et c'est atrocement cher à faire puisque en gros, tu perds 95% de la matière.
Oh, ça, c'est vrai que c'est un usinage où tu gardes que 20% du truc, quoi.
Ah ouais, c'est au maximum, tu gardes que 20% du truc puisque t'enlèves absolument tout sauf l'armature qui est assez fine et donc une couche la plus fine possible. Et donc, pour en revenir à Starship... Il ne faut pas oublier que ce truc doit être capable de contenir du gaz liquide à moins de 150 degrés, de supporter des températures monstrueuses quand il rentre dans l'atmosphère, et puisque c'est réutilisable, hein, et ça au moins deux fois de suite, puisqu'il est censé aller sur Mars et revenir.
Ouais.
Et donc l'acier, au moins, il a pour lui de conduire la chaleur beaucoup moins bien, et de supporter sans broncher les 1000 degrés. Bon, c'est quand même pas suffisant, pour le projet d'atterrir sur Mars. D'amarcir, donc, je suppose. Donc, il pourra arriver, parce qu'en fait, quand tu arrives sur Mars, tu arrives avec une très haute vitesse, et il faut ralentir. Alors, ralentir, comment tu fais? Si tu peux utiliser des moteurs fusées, mais évidemment, ça consomme encore de l'énergie. Et donc, ce qu'il veut faire Elon Musk, c'est d'arriver à toute berzingue sur Mars et d'utiliser le frottement de l'atmosphère martienne pour se ralentir. Ce qui marche très bien, hein. Le souci, c'est que tu fais monter la coque extérieure à 1700 degrés. Donc c'est voulu, hein. Tu comptes là-dessus vraiment pour ralentir ton vaisseau. Et comme il n'est pas envisageable de changer des protections céramiques qu'on met en général pour protéger de ce genre de chaleur ultra-violente à 1700 degrés, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est absolument monstrueux. Ouais. Donc 1700 degrés, en général, on met des plaques en céramique, et après, une fois qu'elles ont servi, on les jette, hein. Mais là, tu peux pas. Donc, comment tu fais? En fait, en termes, ils envisagent de faire un vaisseau qui a deux couches. Il y a une couche, il y a une couche extérieure qui est trouée, une couche intérieure, et entre les deux couches, ils vont faire passer du méthane liquide. Le méthane liquide se vaporise, il va refroidir l'ensemble, et il va dégazer par les trous. Et en fait, le dégazage va refroidir mécaniquement le truc, parce que en fait, c'est exactement ce qui se passe quand tu transpires. Quand tu transpires, il y a du liquide qui sort, il se transforme en gaz, et la réaction produit du froid. Et en réalité, c'est la même chose. Donc en fait, c'est dans une certaine mesure, il veut faire une fusée qui transpire, pour se refroidir. Alors pourquoi du méthane? Parce que ce serait le carburant tout simplement choisi pour Starship. Donc il serait déjà disponible en fait, il aurait déjà du méthane dans ces trucs, donc il pourrait utiliser le méthane pour se refroidir. Donc c'est une technique qui pourrait fonctionner parce que l'acier conduit pas la chaleur si bien que ça en fait, ce qui réduit un peu le besoin de protection. Et en plus, en théorie, une fois sur Mars, produire du méthane avec du CO2 et de l'eau, à supposer que tu aies de l'énergie, hein, c'est pas très compliqué. Du coup, ça ouvre la possibilité de produire un ravitaillement in situ, puisqu'on sait qu'il y a du CO2 et de l'eau sur Mars. Bon, alors, tout ça est très 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 théorique encore, mais bon, en tous les cas, théoriquement, il y a ce qu'il faut. Donc. Alors évidemment, tout ça est très préliminaire. Le Starship qu'on voit partout, c'est un proto. Juste un proto. Donc en fait, c'est pour ça qu'il est tout brillant en acier aussi, c'est parce que c'est juste un proto. Pour le moment, il teste la résistance. Hein. Est-ce que ce truc peut vraiment voler? Ça marche pas toujours. D'ailleurs, dans un Tech Café la semaine dernière, je crois qu'on relatait un incident où ça a explosé, en gros, lors d'un test de pression. Donc il y en a eu d'autres, hein, des trucs. Et il y en aura encore plein d'autres avant que Star Hopper arrive sur Mars, de toute façon. Donc ça va coûter beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Mais peut-être que ça ne sera pas un problème si Elon arrive à ses fins avec Starlink, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, pourrait devenir un coup de génie. Est-ce que j'ai été clair là-dessus?
T'as été très clair, oui. On peut enchaîner du coup, sur Starlink.
Oui, Starlink. Tu te souviens de Starlink?
Effectivement, ce réseau qui promet de pouvoir connecter, en gros, avec un maillage de trucs satellites autour de la Terre.
Exactement, parce que Elon y tient son Starlink. Hein. Donc, il y a une soixantaine de satellites qui, pour commencer, donc, qui a été envoyé. Il y a des milliers à terme qui vont être envoyés en orbite.
Ça me paraît toujours dingue. Moi, ça... Enfin bon.
Ah mais c'est dingue, c'est un accès internet haut débit absolument partout, sur Terre, sans infrastructure, puisqu'en fait il suffira d'une antenne de 30 cm de côté, où t'as une boîte à pizza, hein, pour se connecter à Starlink et c'est tout. C'est pas si simple, hein. Les antennes sont directionnelles, donc elles ont aucune partie mobile, donc c'est juste en modulant les phases pour construire les interférences. Les satellites eux-mêmes aussi, d'ailleurs ils ont 4 antennes de ce type, hein, qui sont directionnelles, et le dispositif a demandé énormément de boulot d'ailleurs. Donc 12 000 satellites, c'est des milliards de dollars. Ça va encombrer énormément l'orbite terrestre. Ils seront équipés de moteurs, d'ailleurs, des moteurs à ions pour éviter les débris et aussi pour se jeter sur Terre en fin de vie, en se désintégrant dans l'atmosphère.
Quelle durée de vie, d'ailleurs ? Je ne me rappelle plus. On avait dû avoir une évaluation de la durée de vie des modules Starlink, non ?
Ouais, c'est entre 5 et 10 ans, je pense.
Pas
alors le ah ben non, c'est pas énorme, mais bon après ils vont se désintégrer à l'atmosphère, normalement il restera pratiquement rien. Bon enfin en gros, ils vont se désintégrer à 95% et le reste va retomber hein, tout simplement oui sur notre gueule éventuellement, mais bon plus probablement dans l'eau. Parce que bon, ils vont faire ça bien, j'espère. Et bon, les satellites eux-mêmes donc vont relayer les infos entre eux par laser sur toute la constellation. Donc en fait, c'est de la fibre optique mais sans fibre. Puisque dans l'espace, en fait, il n'y a aucune atténuation du signal. Et donc, on peut propager vraiment bien et vite l'info entre les satellites.
Est-ce que le laser peut être suffisamment précis pour communiquer d'un Starlink à l'autre ? Ça me paraît incroyable.
Ah oui, mais... oui, tout à fait. Oui.
C'est fou, ça.
Pourquoi vite ? Parce qu'en fait, la lumière ne va pas à la vitesse de lumière dans la fibre optique. En fait, elle va dans les 50% moins vite. Et dans l'espace, bah, c'est le vide. Donc, elle peut aller à ces bons 300 000 km par seconde. Quoi.
Ouais,
donc, en conclusion...
Il
n'y
a
rien qui la freine.
Chose, très très peu de choses.
Non, il n'y a rien du tout. Enfin, il n'y a rien du tout. Et donc, en conclusion, une transmission très longue distance d'un point à un autre du globe, ça peut aller très largement plus vite via Starlink. Et même pour des trajets transatlantiques, en fait, hein, la différence est là. Un aller-retour Bourse de Paris, Bourse de New York, c'est dans les 63 millisecondes via la fibre. Avec toutes les conversions et voyages dans les câbles de jusqu'à ton PC, c'est dans les 76 millisecondes. Bon, un prof d'University College à Londres a estimé le temps aller-retour de via Starlink. Donc d'abord, les satellites en orbite basse, donc c'est à peu près 550 bornes. Hein. C'est vital qu'ils soient en orbite basse parce qu'il faut limiter le temps de trajet entre le sol et le satellite. Donc ça, ce sera environ de 3,6 ouais. millisecondes. Du coup, ils peuvent d'ailleurs couvrir qu'un rayon limité s'ils sont bas. Donc ils peuvent couvrir qu'un rayon limité. En fait, à Terre, ils couvrent une surface, enfin, ils couvrent un diamètre d'environ 500 km. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de milliers de satellites, tout simplement, parce qu'il faut qu'ils soient bas pour pouvoir avoir une latence faible. Et s'ils sont bas, ils peuvent voir qu'un cône assez petit, finalement. Donc la première phase de Starlink, c'est 1584 satellites sur 24 plans orbitaux qui vont se relayer les informations. Et tout bouge tout le temps. Donc ça veut dire qu'il est crucial de savoir qui est où en permanence pour bien communiquer avec son plus proche voisin. Et en l'occurrence, même ses quatre plus proches voisins avec lesquels chaque satellite peut interagir et envoyer des informations simultanément. Donc à travers 3 ou 4 satellites, à peu près, en transatlantique, la latence totale de Starlink va chercher dans les 43 millisecondes. C'est-à-dire c'est presque deux fois mieux que la fibre en fait. Et il est même impossible de faire mieux avec la fibre, physiquement. Et c'est pas un hasard si j'ai parlé des bourses de Paris et de New York, parce que le trading à haute fréquence demande des latences le plus faibles possible pour la finance. Ces quelques dizaines de millisecondes sont très très importantes, à tel point qu'il existe un câble sous-marin privé, qui s'appelle Hibernia Express, entre l'Angleterre et le New Jersey, et qui offre la latence la plus faible au monde entre ces deux points, qui est de 59 millisecondes. Donc tu te rends compte que le câble transatlantique standard, c'est 65 millisecondes, et ce câble n'existe que pour gagner 5 millisecondes, et il a coûté 300 millions de dollars. Et Starlink, bah, c'est quand même 17 millisecondes plus rapide. Imagine un aller-retour Londres-Tokyo. T'imagines les gains que ça ferait avec une distance monstrueuse comme ça. Les gains seraient largement plus spectaculaires. Il est clair que le monde financier doit regarder Starlink de très très près. Et donc, le pari est le suivant. Bon, pour 10 milliards, Musk prévoit d'apporter un réseau internet partout pour environ 200 balles de récepteur. C'est nettement moins cher que les solutions satellites actuelles. Hein. Alors 10 milliards, c'est beaucoup, c'est vrai, mais bon, c'est quand même beaucoup moins cher que les infrastructures 5G pour le monde entier. Parce que oui, Starlink, c'est pour le monde entier. Et si tu regardes combien ça coûterait de passer les États-Unis complètement en 5G, ça pourrait être déjà 10 fois plus cher, en fait. Si tu ajoutes tout. Mais surtout, Musk sait qu'il y a des clients très fortunés qui seraient trop heureux de payer un prix premium pour avoir un accès premium à ce réseau à faible latence. Et en fait, c'est déjà budgété. Et c'est largement basé sur les revenus du secteur financier, Starlink pourrait rapporter entre 30 et 50 milliards de dollars par an. Donc en fait, c'est une véritable rente qui permettrait à SpaceX, par exemple, d'avoir un budget qui serait supérieur à celui de la NASA. Donc si tout se passe comme prévu, Starlink, bah, c'est un coup de génie pour Musk, qui serait une source de revenus stable et qui lui permettrait de se concentrer sur ses pharaoniques projets de long terme dans le spatial, et éventuellement aussi de renflouer Tesla si jamais il venait avoir des problèmes. Donc... Starlink, en fait, c'est loin d'être une lubie. C'est un plan. Je ne sais pas s'il va si ça va marcher, je ne sais pas si ça va marcher comme Elon le suppose, mais c'est loin d'être une lubie. C'est un plan qui est mûrement réfléchi et qui pourrait à terme s'avérer extrêmement lucratif.
Quelle exposition il peut y avoir à des agressions de type débris qui viennent nous percuter et ces trucs-là se les prendraient en pleine tête.
Alors, il faut savoir que donc il y a une instance qui suit tous les débris, en fait. Tous les débris d'une certaine taille sont suivis et on sait où ils sont à tout instant. Et donc, cette instance prévient les propriétaires de satellites qu'il y a un débris dans le coin et donc il prévient avec un niveau de gravité qui est proportionnel à la probabilité qu'ils se le prennent dans la gueule. C'est-à-dire, en fait, il y a des sphères, si tu veux, de dangerosité. Et donc, si le débris a une probabilité élevée de se trouver dans une sphère relativement petite du satellite, on prévient le propriétaire du satellite, qui a alors le choix de faire ce qu'il peut faire. Donc, parfois, il peut rien faire. Et puis, sur les satellites, sur certains satellites, sur certains appareils, il y a des petits réacteurs, des petits propulseurs comme ça qui sont prévus pour justement se dérouter.
De dévier. Donc,
voilà, exactement. Donc, les satellites les plus chers, les plus sophistiqués ont la possibilité de se dévier automatiquement si jamais il y a un truc qui leur arrive dans la tronche, ils se dévient un petit peu et ça suffit en fait. Ça peut suffire comme ça. Alors,
okay.
les satellites de Starlink sont équipés de petits propulseurs à ions qui sont capables de les faire bouger un petit peu sur leur orbite. Probablement après de les faire revenir, enfin ça je sais pas exactement, mais bon, en tout cas, ils sont capables d'éviter des débris qui pourraient leur arriver dans la tête. Après, est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes devenir des débris? Évidemment. Mais a priori, non, parce que le truc, c'est qu'une fois qu'ils sont en fin de vie, justement, avec un petit truc, il y a un petit propulseur qui les repousse sur l'atmosphère où ils vont se désintégrer.
Bon, bah écoute, très bien. J'ai l'impression que t'es hyper enthousiaste sur ce truc, alors que j'aurais pu imaginer que dans un premier temps, t'étais plus critique par rapport à la pollution autour de l'atmosphère.
En fait, j'attends de voir, parce que... Là, si tu veux, ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'en fait, c'est pas du tout un truc, une lubie de fou furieux. Quoi. C'est un truc qui est financièrement très très bien réfléchi. Après, c'est toujours pareil. J'attends de voir, parce que si ça se trouve, effectivement, ça peut se substituer à des infrastructures 5G dans certains endroits. Et c'est pas forcément beaucoup, parce que si tu veux, la 5G aussi, ça coûte du fric, ça coûte des ressources, ça coûte des investissements et des équipements. Lourds en fait, qui sont pas non plus anodins en termes de pollution, en termes d'impact environnemental.
C'est vrai.
Du coup, est-ce que Starlink c'est pas quelque chose qui peut être une alternative crédible? Je sais pas, j'attends de voir, tu vois. Je me dis, parce que bon, la 5G, faut pas se mentir, la 5G, pourquoi est-ce qu'il y a une bonne passante aussi énorme? C'est parce qu'on a des longueurs d'onde qui sont beaucoup plus faibles, avec des fréquences beaucoup plus hautes. Bon, ben, ça veut dire aussi que la portée est beaucoup plus faible. Si la portée est beaucoup plus faible, ça veut dire qu'il faut beaucoup plus d'antennes. Mmh. Et des antennes beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus complexes, etc. Donc, si tu veux, c'est pas non plus complètement... c'est pas anodin non plus, tu vois. Donc, Starlink, évidemment, c'est... On peut le voir comme une pollution spatiale, ça certainement. D'un autre côté, la 5G aussi, c'est un truc qui a un impact environnemental, tu vois. Donc, lequel est le plus... lequel est le plus souhaitable, c'est pas si clair que ça pour moi encore, donc j'attends de voir.
Et puis je restais toujours interpellé, encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, par cette durée de vie. Mais finalement, c'est vrai qu'une infrastructure 5G, on mise sur quelle durée de vie finalement, je me rends pas bien compte, parce que déjà la 4G, j'ai pas en tête, mais ça doit être de l'ordre des 10 ans quand on recycle comme ça des débits. Et du coup, si il faut recycler tous les 10 ans les Starlink, ça peut être effectivement peut-être plus rentable. Bon, bah écoute, va savoir, peut-être que demain on enregistrera des épisodes de podcast à travers le réseau Starlink qui nous sera mis à disposition. Écoute, on verra ce qu'il en est. Merci beaucoup Guillaume pour tous ces éléments que tu as pu préparer dans le cadre de cette émission spéciale Les Puces à l'oreille. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet?
Si vous voulez essayer de me convaincre que Starlink c'est nul, vous pouvez toujours essayer de le faire sur Telegram. Je sais pas si Starlink c'est nul. En fait, tu sais, je sais même pas si Starlink verra le jour. Non mais pour de vrai, je sais pas si Starlink verra le jour comme c'est prévu avec ses 12 000 satellites et tout, fonctionnalité maximale pour $200, tu peux te connecter à haut débit n'importe où. Je sais pas si ça verra le jour, jamais. C'est une idée un peu folle, c'est une idée très ambitieuse, on va dire. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je sais pas. En tout cas, si ça fonctionne, c'est pas forcément une si mauvaise idée que ça, quoi.
Écoute, on continuera à en parler. Merci beaucoup, Guillaume. De mon côté, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr avec tous les liens vers les émissions dans lesquelles je peux officier, les différents articles de mon blog et les liens vers les différents comptes de réseaux sociaux où vous pouvez interagir avec moi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de La Puce à l'Oreille et on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.